Il est 12h30 sur France Culture, le journal Maxime Fayolle.
Bonjour à tous. Plus de 3000 arrestations en Biélorussie hier lors de manifestations après la réélection du président Alexandre Loukachenko pour son 6e mandat à la tête du pays. L'opposition dénonce un scrutin avec des fraudes massives et demande au président de céder le pouvoir. À Hong Kong, le mania de la presse Jimmy Lai, figure pro-démocratie et anti-Pékin, a été arrêté ce matin par les autorités. Il est soupçonné par la Chine d'avoir orchestré les manifestations de l'an passé. Son arrestation suscite beaucoup de réactions ce midi. La mort de 6 humanitaires français au Niger, à quelques kilomètres de la capitale Niamey. Ils ont été abattus hier par des hommes armés dans une zone classée orange par le Quai d'Orsay. Analyse de Bertrand Galichet. Et le rebond de l'épidémie de Covid-19 en France. Les chiffres publiés par Santé publique France laissent craindre une deuxième vague de coronavirus. Décryptage avec Tara Schlegel. Le président russe Vladimir Poutine félicite ce midi Alexandre Loukachenko pour sa réélection à la tête de la Biélorussie. Les résultats officiels sont tombés dans la matinée. Le président sortant est réélu avec 80,23% des suffrages. 6e mandat consécutif pour lui. Son opposante Svetlana Tikhanovskaya demande aujourd'hui qu'Alexandre Loukachenko cède le pouvoir. De grandes manifestations se sont déroulées hier à Minsk, la capitale, mais également dans 10 autres villes du pays pour contester les résultats annoncés. Plus de 3000 personnes ont été arrêtées. Une répression violente, Claude Brouillot, qui a coûté la vie à une personne et fait plusieurs dizaines de blessés.
Autant que le nombre bien supérieur finalement aux arrestations durant la présidentielle de 2010, c'est la dureté avec laquelle les OMON, les unités anti-émeutes biélorusses, ont répondu à la simple présence de milliers de manifestants hier soir sur les places et les avenues de Minsk. Hier, c'est l'usage disproportionné de la force dénoncé par les ONG sur place qui a caractérisé le maintien de l'ordre exigé par Loukachenko, félicité ce matin par le seul Vladimir Poutine. Sur les réseaux sociaux, quand ils étaient accessibles, beaucoup ont pu voir un fourgon cellulaire fendre la foule des opposants et renverser volontairement un manifestant aujourd'hui décédé. Nombreuses sont les scènes également où l'on voit des badauds qui semblent à l'écart des rassemblements se faire molester par les policiers biélorusses, comme si ces derniers voulaient provoquer la réaction d'opposants au pouvoir déjà ulcérés par les fraudes durant le scrutin.
Claude Brouillot et la Pologne appellent ce matin à un sommet extraordinaire de l'Union européenne sur cette élection en Biélorussie. L'un des principaux patrons de presse hongkongais arrêté ce matin, Jimmy Lai, propriétaire du quotidien Apple Daily, a été interpellé à son domicile. Ses titres de presse ont été perquisitionnés. Jimmy Lai est vu comme l'un des principaux critiques de Pékin et c'est la nouvelle loi sur la sécurité qui a permis cette arrestation. Bonjour Florence de Changy.
Bonjour.
En direct pour France Culture. Cette détention n'est d'ailleurs pas sans susciter des réactions ce midi.
Absolument. Les Hongkongais ont vite réagi à cette nouvelle qui a bien sûr choqué, parce que ça fait longtemps qu'on parle de l'érosion des libertés fondamentales, dont la liberté de la presse à Hong Kong. Mais de là à voir la police faire une descente aussi musclée au sein même de la rédaction du journal le plus critique du gouvernement et du Parti communiste chinois, c'est pour tout le monde effectivement un choc. Surtout que le fondateur du célèbre journal, donc le Apple Daily, Jimmy Lai, qui a 71 ans aujourd'hui, force le respect de beaucoup de Hongkongais, non seulement par son histoire exceptionnelle, puisqu'il est arrivé très pauvre et a connu un succès extraordinaire dans les affaires, mais aussi par son courage et même sa témérité dans son acharnement à tenir tête à Pékin. Du coup, aujourd'hui, des milliers de Hongkongais se sont précipités pour acheter tous les journaux du groupe disponibles en kiosque. Certains lecteurs fidèles du titre ont suggéré d'en faire autant dès demain, et ce, même si le journal ne publiait que des pages blanches. Et à la bourse, quelque chose d'intéressant qui s'est passé, on a vu l'action du groupe Nexdigital d'abord perdre jusqu'à 18% dans la session du matin, mais la tendance s'est inversée l'après-midi, et on a vu au contraire l'action rebondir de plus de 340%, donc un record absolu, suite à un mouvement d'achat de solidarité pour soutenir le groupe dans cet épisode très grave, preuve donc de la popularité dont il jouit dans la population.
Florence de Changi, Hong Kong, qui est d'ailleurs toujours une pomme de discorde entre les États-Unis et la Chine. Pékin décide de sanctionner ce matin 11 responsables américains. En représailles, il y a des mesures similaires de la part de Washington. Les relations entre les deux pays ne devraient d'ailleurs guère s'améliorer après la visite en ce moment même du secrétaire américain à la santé à Taïwan. Pékin voit une tentative de déstabilisation. Les États-Unis avaient rompu les relations diplomatiques avec la capitale de Taïwan depuis déjà plus de 40 ans. Le parquet antiterroriste se saisit ce midi de l'enquête sur la mort des Français au Niger. Enquête pour assassinat. 6 membres de l'ONG Acted ont été tués hier dans la région de Kouré, à quelques kilomètres de la capitale Niamey. Emmanuel Macron réaffirme aujourd'hui sa volonté de lutter contre les groupes armés terroristes au Sahel. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour.
Les humanitaires, leurs guides et leurs chauffeurs circulaient pourtant dans une zone qui n'était pas classée rouge par le Quai d'Orsay.
Une zone classée orange, donc déconseillée, à une heure de route au sud-est de la capitale du Niger. Cette réserve où vivent les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest est très prisée des expatriés qui vivent dans la région. Les Français de l'ONG humanitaire Acted et leurs deux accompagnateurs nigériens avaient décidé de s'y rendre hier matin à bord d'un véhicule tout-terrain. C'est en fin de matinée qu'ils ont été attaqués par des tueurs circulant à moto dans la brousse. Selon certaines sources, les assassins auraient piégé leurs victimes à l'intérieur même de la réserve. L'une des occupantes aurait tenté de s'enfuir avant d'être rattrapée et égorgée. Les corps des autres victimes, la plupart tuées par balles, ont été retrouvés à proximité de la voiture en partie incendiée. Le drame a eu lieu à une centaine de kilomètres du Burkina Faso, près de la localité de Kouré, jusque-là épargnée par le terrorisme. Mais cette région des trois frontières est un terrain idéal pour les djihadistes et les trafiquants qui passent facilement d'un pays à l'autre.
Bertrand, on apprend ce matin que l'armée quadrille la zone à la recherche des auteurs de cette attaque. Est-ce qu'on a une idée du groupe auquel appartiennent ces hommes ?
Non, car aucune revendication n'est annoncée pour l'instant. Même si le mode opératoire et la cible laissent peu de doutes sur le caractère de l'attaque, le parquet antiterroriste de Paris, vous l'avez dit, vient d'ouvrir une enquête. Plusieurs groupes islamistes rivalisent dans la région, notamment Boko Haram, où le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale alliance djihadiste du Sahel, affiliée à Al-Qaïda. Reste à interpréter l'attaque meurtrière qui a eu lieu hier près de Niamey. On peut y voir une riposte sur des civils au coup porté par l'opération Barkhane, ou tout simplement un message hostile à la présence des Occidentaux, quels qu'ils soient.
Une précision de Bertrand Galichet. Au Liban, un troisième ministre annonce sa démission aujourd'hui, une semaine après l'explosion dans le port de Beyrouth qui a coûté la vie à 158 personnes selon un dernier bilan. Il s'agit du ministre de la Justice. Un départ alors que l'enquête sur ce drame est en cours. Ce sont en effet les autorités libanaises qui vont conduire les investigations. La conférence internationale de soutien au pays proposait pourtant une enquête internationale impartiale. Cette conférence, à l'origine de la France, a permis de rassembler de l'argent en urgence pour les premiers besoins. Emmanuel Macron indique que notre pays contribuera à hauteur de 30 millions d'euros. L'Élysée a communiqué de façon millimétrée hier soir, Sophie Delpont, manière de réaffirmer son leadership dans l'aide aux Libanais.
Après avoir annoncé le montant de l'aide, plus de 250 millions d'euros, et le déploiement d'experts sur le terrain, l'Élysée précise que, je cite, « les partenaires internationaux du Liban ont convenu de l'importance que cette aide parvienne au plus vite et de la manière la plus efficace et transparente à la population libanaise ». Soulignant ainsi à nouveau l'enjeu d'éviter tout détournement dû à la corruption. Sur Twitter, simultanément, Emmanuel Macron diffuse une vidéo dans laquelle on le voit en face d'un écran, celui de la visioconférence internationale pour organiser l'aide pour le peuple libanais. Une heure plus tard, le compte Twitter du président de la République publie un premier message. Le peuple libanais est libre et souverain. Il appartient aux autorités du pays d'agir pour que le Liban ne sombre pas et pour répondre aux aspirations que le peuple libanais exprime en ce moment même légitimement dans les rues de Beyrouth. Une manière de se prémunir face aux critiques d'une ingérence de sa part, tout en se plaçant aux côtés des citoyens libanais qui réclament le départ de leurs dirigeants. L'avenir du Liban se joue maintenant, peut-on lire sur un tweet d'Emmanuel Macron publié simultanément. Tous ces messages sont ensuite traduits en arabe et en anglais, 2 heures plus tard, toujours sur Twitter. Emmanuel Macron renforce encore sa stature internationale et se place ainsi en pilier d'une aide concrète aux habitants, tout en soutenant la colère des Libanais, jouant le rôle d'arbitre, mais aussi de soutien au peuple libanais, face aux autorités en place.
Sophie Delpont. En France, l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse. Le port du masque est désormais obligatoire dans certaines rues de Paris, comme c'est déjà le cas dans plusieurs villes du pays. Les indicateurs de Santé publique France sont mauvais depuis plusieurs jours. Les autorités dénoncent des rassemblements massifs sans respect des gestes barrières, comme cette rave party en Lozère qui a réuni plus de 7000 personnes ou encore une fête dans la Marne. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la deuxième vague de coronavirus est là ?
Pas vraiment. Les autorités sanitaires n'ont pas employé officiellement le terme. Pour l'instant, elles préfèrent parler de dégradation et d'un virus qu'elles qualifient de plus actif. En particulier, note la Direction Générale de la Santé, chez les jeunes adultes. Globalement, en tout cas, en 24 heures, on compte 2288 nouveaux cas. C'est donc pratiquement le double de ce qu'on observait ces derniers temps et qui était déjà inquiétant, puisque la barre des 1000 nouveaux cas avérés par jour a été franchie depuis fin juillet. Parmi ces nouveaux cas, il y a entre 130 et 140 personnes suffisamment atteintes pour être hospitalisées tous les jours depuis le début du mois d'août. Et une vingtaine d'entre elles sont admises en réanimation, là encore, toutes les 24 heures. Alors, pour relativiser, cependant, on peut rappeler que dans les services de réanimation, il y a en ce moment 383 personnes et qu'on est donc très loin du pic de l'épidémie quand plus de 7000 malades se sont retrouvés dans les services de réa en même temps. C'était début avril. Le constat n'en reste pas moins très préoccupant. L'épidémie est vraiment repartie. Elle circule plus vite que le nombre de tests n'augmente. Plus 30% de cas de Covid supplémentaires sur une semaine, mais seulement plus 14% de patients testés. Or, ce dispositif est très essentiel pour détecter les nouveaux clusters et tenter d'endiguer le virus. Le ministère appelle donc quelques mesures de bon sens en temps de canicule. Ne pas utiliser de ventilateur en collectivité dans les lieux clos. Porter son masque, bien sûr, mais ne pas l'humidifier, sinon il perd son pouvoir protecteur.
Tara Schlegel. Notons aussi qu'un collectif de passagers de Costa Croisière vient de déposer 180 plaintes à Paris contre la compagnie maritime. Il dénonce la tenue d'une croisière en mars dernier. Plus de 2300 passagers n'ont pu accoster dans les îles prévues lors de la croisière. Les touristes se sont donc reportés sur les activités à bord sans respecter les mesures barrières. Au moins 3 passagers seraient décédés de la Covid-19. L'épidémie qui fait également des ravages en Amérique latine, le Mexique et le Pérou sont très touchés par l'épidémie. C'est encore pire au Brésil qui vient de franchir la barre des 100 000 morts et plus de 3 millions de cas positifs. C'est le deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis. Anvinia, ce qui n'empêche pas le président Jair Bolsonaro de nier la gravité de cette crise.
Pour rendre hommage aux 100 000 victimes du coronavirus, c'est le président du Sénat et non celui de la République qui a décrété un deuil national de 4 jours. Jair Bolsonaro a choisi plutôt de poster sur ses réseaux sociaux une photo de lui, souriant, vêtu du maillot de l'équipe de football de Palmeiras pour la féliciter de sa victoire dans le championnat de São Paulo. Au diapason du président, son ministre intérimaire de la Santé s'est lui félicité de tout mettre en place pour sauver des vies. Le gouvernement n'a donc nullement changé d'attitude et se refuse toujours à prôner des mesures de distanciation sociale. Seuls les scientifiques continuent d'alerter sur la gravité de la pandémie, dont la courbe s'est à peine aplanie dans le nord du pays et les grandes villes. Mais ce sont désormais le sud et l'ouest du Brésil qui connaissent un pic de l'épidémie. Le relâchement est désormais bien visible dans la population qui se retrouvait ce dimanche pour fêter les pères, bien souvent en famille ou au restaurant. Entre ceux qui écoutent le président et ceux qui ont besoin de s'aérer après plusieurs mois d'isolement, il ne reste plus grand monde pour appliquer les gestes barrières.
La précision d'Anvinia. La Covid qui a également perturbé le secteur du tourisme, particulièrement en France, avec près de 40 milliards de pertes cette année. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, en déplacement à Lourdes aujourd'hui, annonce que les commerces de la ville vont bénéficier du plan tourisme et donc du fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année 2020. Certains commerçants de la ville ont perdu jusqu'à 85% de leur chiffre d'affaires avec cette crise sanitaire. Toujours 15 départements en alerte rouge à la canicule dans le nord du pays ce midi. 54 autres sont en vigilance orange. La chaleur qui frappe le pays depuis plusieurs jours déjà, qui fait écho à la sécheresse qui touche la France depuis plusieurs semaines. Au total, ce sont 72 départements qui sont concernés par des arrêtés de restriction d'utilisation d'eau. Une sécheresse qui devient malheureusement habituelle ces dernières années et à laquelle il va falloir s'habituer, explique Félix Lallemand. Il est docteur en écologie et évolution au Muséum d'histoire naturelle.
On est en train de basculer dans un nouveau monde, une nouvelle norme où les sécheresses exceptionnelles d'il y a 30, 40 ans deviennent aujourd'hui récurrentes. Tout ça va ne faire qu'empirer parce qu'on sait qu'on a déjà émis trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le réchauffement est parti. Et en gros, d'ici 2050, les sécheresses exceptionnelles seront des événements inédits qui n'ont pas d'équivalent aujourd'hui et qui seront potentiellement très destructeurs pour l'agriculture. On est en train d'aggraver le problème. On n'est toujours pas aujourd'hui en train de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sauf cas de crise sanitaire très particulier. On s'est toujours pas mis en ordre de marche pour vraiment s'attaquer au problème du réchauffement climatique. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est aggraver les risques futurs. Donc, il y a vraiment ce sujet-là qui est absolument central. Et après, évidemment, l'adaptation à ce qui aujourd'hui est inévitable rentre aussi en ligne de compte.
Le docteur Félix Lallemand, interviewé par Chloé Cambrelin dans les matins de France Culture. Entretien complet à retrouver sur franceculture.fr. Le temps de ce lundi dans la droite ligne de ce que l'on vit depuis une petite semaine avec beaucoup de chaleur sur tout le pays. On attend des orages, sauf sur le pourtour méditerranéen. De la pluie, même sur la région parisienne, les Ardennes et l'Aquitaine. Comptez toujours 32 degrés sur la capitale cet après-midi, 33 à Orléans, 34 à Strasbourg, jusqu'à 35 degrés à Lyon.